Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, les initiatives drômoises dans le champ littéraire ne manquent pas. Il y en a une qui nous propose de festoyer, lire, écouter, entendre et partager les mots et les rimes chaque année à la sortie de l'hiver. Et celle-ci, c'est le Printemps des Poètes. Cette manifestation nationale qui se déroule du 3 au 19 mars se décline aussi localement grâce au formidable travail de la Maison de la Poésie de la Drôme. Alors, à cette occasion, nous recevons aujourd'hui Françoise Bresse, élue au conseil municipal de Poët-Laval et impliquée dans l'organisation d'une scène ouverte qui aura lieu le 9 mars au Poët-Laval, et Francis Pont, auteur, poète, qui habite ici et sera à Diolfi à Craft Espace le 17 mars pour un hommage au poète Dylan Thomas en parallèle avec une spéciale femme en poésie présentée par Françoise Autain. Bonjour Francis, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et bienvenue. Bonjour. Alors, honneur aux dames, hein, Françoise, c'est tout à fait logique. Françoise Bresse, le poète Laval participe à cette épopée poétique qui se distille dans nos villes et nos villages. Pendant 15 jours, comment vous avez eu cette envie et comment c'est venu ?
Cette manifestation a toujours eu beaucoup d'intérêt pour moi parce que j'aime beaucoup la poésie. Donc ce contexte du Printemps des Poètes se prête à essayer de rassembler autour de la poésie toutes les personnes qui ont envie de la célébrer. Et la municipalité donc de Poët-Laval a voulu cette année inviter toutes et tous à fêter le Printemps des Poètes, qui est une manifestation nationale, qui est dans sa 20e édition et qui est placée sous le thème de l'ardeur.
L'ardeur, ça voilà. Fait rêver. Vous aimez la poésie, Françoise ?
Oui, j'aime beaucoup la poésie. Je suis convaincue depuis toujours que c'est une expression humaine, l'expression de ce que nous avons de plus profond en nous.
Voilà. L'expression des profondeurs.
Oui.
Et l'ardeur dans tout ça, vous
Alors,
l'interprétez comment, vous ?
Alors l'ardeur, pour moi, c'est et je pense le sera pour d'autres, un mot évocateur qui peut se décliner amplement. J'entends l'ardeur du feu, celle de la flamme, au sens premier et au sens second. L'ardeur, c'est pour moi l'énergie décuplée de la volonté pour mettre en œuvre, obtenir, gagner. L'ardeur, chacune et chacun donc dira en poésie comment l'exprimer. Voilà, donc ces correspondances, ce sont pour moi celles-ci, pour l'instant.
Alors à Poët-Laval, vous vous êtes tournée vers une scène ouverte, en fait, bistrot ouvert.
Oui.
Ça va se passer comment ? Est-ce que c'est comme en musique ? On vient avec son instrument, donc on vient avec ses poèmes quand on fait un bœuf ?
Alors j'ai rencontré avec plaisir Julie Vercruis et Frédéric Garry, qui sont les gérants du bistrot de pays tous les matins du monde, et qui, sans hésitation et avec plaisir, ont accepté de nous recevoir. Et la soirée sera organisée, donc j'ai déjà commencé, nous avons organisé la soirée avec eux. Nous serons reçus à 18h et nous nous installerons dans les lieux. Nous pourrons commander à cette occasion une boisson. Puis nous entamerons la soirée lecture de poèmes qui seront peut-être dits aussi et mis en scène par une personne qui s'appelle donc Virginie Comagnecchi, à laquelle j'ai demandé d'animer cette soirée.
Donc c'est elle qui va lire les poèmes apportés par les gens ?
Oui, elle lira. Alors donc l'idée, c'était de convier effectivement les habitants de Poët-Laval, en premier, puis bien au-delà, bien sûr, à venir dire des poèmes, à venir avec des poèmes qu'ils ont lus, qu'ils aiment. Mais s'ils sont timides, eh bien,
Quelqu'un est là quelqu'un pour le faire à la place.
Virginie Komaniecki, qui par ailleurs donc
est conteuse et pas des moindres.
Est conteuse et pas des moindres, voilà, et qui est aussi donc je l'ai appris en la rencontrant, institutrice à l'école de Poitlaval,
tout à fait,
et qui est très appréciée de tous et de toutes.
C'est quoi le lien du village avec les poètes? Il y a des poètes par chez vous?
Je pense qu'il y a des poètes par chez nous, puis que on va même en découvrir. Grâce à cette rencontre où nous allons partager ce
trésor. C'est vrai que ce sera aussi l'occasion de rencontrer des poètes ou des poétesses qui sont de Poitlaval, tout à fait.
Donc d'autres personnes, effectivement, ont annoncé leur présence pour participer à la soirée. Christian Jean-Marc, qui est donc un lecteur, Françoise Autain, Francis Pont, que nous allons entendre dans un instant, une amie, Anne-Marie Brenner, qui est adhérente du mouvement de la paix et qui conduit à l'école de Poitlaval des ateliers de culture de la paix avec les institutrices et les enfants de l'école de Poitlaval.
Très bien, donc de nombreuses personnes très intéressantes à rencontrer, à voir sur scène et à partager.
Oui, j'aimerais terminer en vous lisant, une phrase, pas un poème, mais une phrase, de Jean-Claude Xuereb, poète avignonnais, parrain du 20e printemps des poètes à la Maison de la Poésie d'Avignon. À travers toutes les civilisations et toutes les cultures, la poésie n'a cessé de répondre, à côté du sacré, aux aspirations les plus élevées de l'humanité. Elle est à présent menacée dans sa survie même. Nous mesurons la nécessité, par ces temps chaotiques et violents, de démontrer qu'elle peut et doit être partagée par le plus grand nombre d'êtres humains, pourvu qu'ils acceptent d'écouter les mots de sang et de lumière, de souffrance ou de joie, d'espoir et de paix qu'elle leur propose.
Avec ardeur, un très beau texte. Merci beaucoup, Françoise. Francis, vous êtes vous-même auteur de poésie. Quelle est votre vision de la poésie ?
Parler de la poésie de manière lapidaire et en quelques minutes ou quelques
vous
secondes
pouvez prendre est toujours votre
difficile.
Temps.
Mais finalement, je la résumerai peut-être par un petit texte qui parle simplement de la mission, mais plutôt de l'état du poète. Comme les grands oiseaux allant de plein, depuis les temps d'avant-mémoire, ailes immobiles déployées sur nos champs et nos rives, œil constellé d'immensité, le poème est cette vigie d'infini dans l'étonnant silence et ce temps intérieur retenu à l'altitude d'un instant. Écrire un pan de vie ou tracer le poème qui en embrasse 100. Je parcourais sans fin nos croisées de pur ciel, nos sentes de traverse. Mon choix a toujours été de partir du fait que dans le poème, il y a 100 vies, il y a 100 histoires possibles que l'on peut raconter. Il y a tout le monde qui peut, selon sa personnalité, selon sa sensibilité, selon son histoire, qui peut être retrouvé dans un poème, aussi court soit-il. On pourrait penser au haïku, où on a tout le monde dans un haïku, par exemple. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas, à ce jour, écrit de romans, de grands romans, mais plutôt des nouvelles ou des nouvelles poétiques, ou tout simplement des poèmes tels que celui que je viens de vous dire. Je suis convaincu depuis toujours que le message poétique est essentiel, et de nos jours, si prosaïque, de nos jours où finalement on ne vit qu'à travers l'ordinateur, le téléphone portable, informatique. C'est peut-être une banalité que de le rappeler, mais il faut encore le dire, il faut aussi lever les yeux, regarder le ciel, parler au cœur des gens, communiquer pour trouver un peu plus de beauté, un peu plus de bonheur et peut-être un petit peu plus de paix, ce qui n'est pas toujours le cas.
C'est un moyen d'expression plus accessible ?
C'est un moyen d'accession, le poème qui est de prime abord, qui semble difficile pour toute personne au quotidien, qui a ses occupations, qui a sa vie, mais Sur la durée, effectivement, c'est un moyen de communication qui va rester, qui va parler. Et d'ailleurs, n'oublions pas que à toutes les époques, on a tenu le pouvoir politique a toujours fait très attention à ce que disaient les poètes. Ils étaient quelquefois les premiers emprisonnés ou inquiétés pour des quelques mots poétiques qui ont donc beaucoup plus de retentissement, à mon avis, dans l'esprit des gens qu'un très long message ou que des paroles très longues. Donc le poème est essentiel à travers toutes les époques.
Est-ce qu'il est très connu par les gens, par les lecteurs par exemple? Est-ce que c'est très répandu de lire de la poésie?
Cela dépend des pays et des cultures. Je vous citerai par exemple l'Iran, que je connais bien, où la poésie est au quotidien, quel que soit le niveau social des personnes. Vous trouvez aussi bien un verset d'un poème de Hafez collé au dos d'une machine, et on compare les grands poètes à des gens de la famille, des gens que l'on côtoie tous les jours. Donc cette admiration, j'ai pris l'exemple de l'Iran, mais effectivement...
Chez nous, c'est peut-être un peu différent.
Oui, en Occident, c'est plus compliqué.
On s'est décroché de...
Oui, et puis il y a cette image du poète un petit peu déconnecté, on est peut-être plus matérialiste, effectivement, et le poète est un peu plus déconnecté de ce que les gens veulent et veulent entendre au quotidien. Néanmoins, je pense que les temps reviennent très, très fortement à la poésie. Et je rejoins ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. Je crois que c'est très important. On a besoin d'authenticité. On a besoin de retrouver les fondamentaux de l'homme. Pour regarder, comme je le disais tout à l'heure dans mon texte, finalement prendre cette hauteur et repenser à ses origines et à son destin.
Alors vous, vous êtes attaqué à un monstre de la poésie pour ce printemps des poètes, Dylan Thomas, que moi personnellement je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez, vous m'avez dit en arrivant que vous aviez à nouveau tout dévoré et que c'était un travail colossal. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? C'est un poète gallois.
Alors Dylan Thomas est un poète gallois contemporain. Nous parlions du thème de l'ardeur tout à l'heure. Il représente pour moi l'ardeur la plus absolue. Mais il y a des limites à cette ardeur. L'ardeur, c'est tout dévorer, tout consumer au quotidien, mais c'est aussi peut-être se consumer un petit peu. Dylan Thomas n'a vécu que 39 ans. Il n'a jamais cessé d'écrire pendant toute sa vie. Et il a écrit des vers absolument magnifique, avec une puissance extraordinaire. Alors, on est à une époque, j'ai dit contemporain, il est né en 1914, il est mort en 1953. C'est la période du surréalisme. Et il n'est pas tellement surréaliste. Il est beaucoup plus rimbaldien. C'est un poète qui s'affranchit des contraintes de son époque, de cette époque, mais qui en même temps écrit des vers absolument superbes, à la fois sur son enfance, sur son petit village gallois d'enfance, au bord de la mer, à côté de Swansea, et qui va parler des petites gens, des gens au quotidien qu'il a fréquentés, des paysages, donc de choses tout à fait simples, naturelles.
On est sur de la poésie en rime.
Alors, c'est de la poésie écrite en anglais, et donc avec des rimes, absolument. Évidemment, on lit tous...
L'anglais couramment,
évidemment. Ou pas couramment. Et ce que je veux dire, et j'en parlerai dans mon exposé le 17, ce que je veux dire, c'est que les traductions sont absolument exceptionnelles. Elles ne sont pas forcément en rime, parce que c'est difficile de faire...
Oui, de faire rimer
des sonorités anglaises en sonorités françaises. Mais les vers, notamment d'Alain Suède, qui est un grand poète et un grand traducteur de Dylan Thomas, sont absolument magnifiques. Donc, il parle de cette nature, il parle de la vie simple des gens. Il y a un grand chef-d'œuvre de Dylan Thomas qui s'appelle « Au bois sacré », « Under Milkwood », qui... qui dépeint les, des personnages pittoresques de son village gallois d'une manière inimaginable. On pense un petit peu à ce moment-là au songe d'une nuit d'été de Shakespeare, avec des voix qui montent comme cela dans la nuit. Voilà. Je me laisse un petit peu entraîner pour vous parler d'Ilan Thomas, mais il y a un autre pôle d'Ilan Thomas, c'est l'homme possédé par son génie, plein d'ardeur, qui dévore la vie, mais qui, comment dirais-je, qui va se détruire. Il est adulé, il est célébré dans le monde anglo-saxon, mais dans le monde entier à l'époque, mais il va énormément boire et il va finir paradoxalement très très mal.
C'est une figure qu'on retrouve beaucoup dans la littérature.
Tout à fait, vous avez raison, tout à fait. Et puis au départ, et j'aurai l'occasion à ce moment-là de lire ces textes, il est un enfant qui va arriver juste après la mort d'un premier enfant, son frère. Et il a été très marqué par ça, et toute sa vie, il est marqué par ça. Et il parle beaucoup, tout en traitant de ces thèmes populaires dont je parlais tout à l'heure, il parle beaucoup de la mort, tout le temps. Et un des chefs-d'œuvre d'Ilan Thomas est, je traduis tout de suite en français, « Et la mort n'aura pas d'empire ». Ça donnerait envie de le lire, mais ça sera pour une prochaine fois.
Eh bien, merci beaucoup Francis Point et Françoise Bresse d'être venus nous parler du printemps des poètes de par chez nous. Je vous rappelle donc ce bistrot littéraire en forme de scène ouverte qui aura lieu à Poète Laval, au café Tous les Matins du Monde, le 9 mars à 18h. Et cette rencontre autour du poète Ilan Thomas et des femmes poétesses avec Francis Julien Pont et Françoise Autain à Craft Espace à Dulphy le samedi 17 mars à 18h. C'est bien ça, hein ?
C'est bien ça. Françoise Autain parlera notamment de Louise Labbé et de Marina Tsvetaeva, donc deux grandes poétesses.
Et le printemps des poètes, ce sont des tas d'autres événements. Et oui, partout dans la Drôme, autour de chez nous. Alors, encore à Dulphy, à la librairie Sceaux et Gambade, le 10 mars à 18h, une lecture surprise pour le coup de cœur de la libraire. Le 18 mars, des lectures à la Popote, si le cœur vous en dit. À Dulphy aussi. Il y aura Sylvie Miran et Arnaud Savoie qui seront à la librairie Baume à Montélimar le 10 mars à 10h45. Et le 25 mars aura lieu le comptoir des poètes à Grignan. Toutes les infos, car il y a bien plus de choses à trouver dans ce printemps des poètes, sont à retrouver sur le site printempsdespoètes.com. Merci et à bientôt.
À bientôt.
Se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. Bueno. Nicole Luma.
Radiola.media.